Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Jackie Cassou, Françoise Fray et Marie-Claude Barret, trois femmes dans le studio. Et bah, vous faites honneur à la gente féminine. On est ravis de vous avoir. Et c'est sans langue de bois, on l'a vu ailleurs avec Françoise. Marie-Claude Barret, est-ce qu'il y a un sujet en ce moment, actualité ou pas actualité, une réflexion dans l'air du temps? Vous avez envie de...
J'ai un sujet qui me tient à cœur, c'est que j'aimerais qu'on parle un peu plus, et même beaucoup, de la condition des handicapés invisibles. Car tout le monde sait ce que... Enfin, tout le monde entend une chose avec les handicapés, bien sûr, mais on se restreint toujours à la visibilité de quelqu'un qui a un handicap moteur. Bien sûr, il faut en parler, bien sûr, il faut les aider, c'est pas ce que je veux dire. Mais on propose facilement une aide dans ces cas-là. Et en fait, il existe un nombre infini de gens qui ont des handicaps cachés, qui les freinent dans leur vie de tous les jours, et on ne se penche pas sur la question. On ne les aide pas, on n'écoute pas. Et c'est ça qui est dommage, parce que je pense qu'il y a des grandes choses qui peuvent être faites, ou des toutes petites choses, qui sont... peut-être qui faciliterait grandement justement leur vie. Et ce n'est pas quelque chose qu'on entend facilement, puisque je me suis rendu compte depuis que j'aborde ce sujet dans pas mal de réunions, je me suis rendu compte que les gens ne savent même pas ce que veut dire un handicap invisible. Donc il y a les handicapés invisibles. Et donc en fait, ce sont toutes ces maladies qui sont terribles, ce sont des problèmes qui ont des problèmes de graves pathologies, des maladies rares qui existent et qui entraînent des modifications de notre intérieur, de corps, qui nous pourrit nos vies de tous les jours. Mais sous prétexte que l'allure est tout à fait classique, normale, une personne qui semble ne pas fatiguer, on ne prête pas attention à ce qui pourrait se passer, on ne s'informe pas et surtout il n'y a pas d'aide à proximité.
D'ailleurs, on se trompe, je parle sous le contrôle de Françoise Fray, qui a été prof de français. On définit dans notre inconscient collectif le handicap comme quelque chose de visible, alors que ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire être handicapé. Voilà.
Tout à fait.
Je peux très bien être donner l'apparence d'être valide et en pleine santé vis-à-vis d'un regard extérieur, avoir une souffrance interne, une douleur peut-être interne, peut-être, ou qui m'empêche de bien voir, et je vais employer cette expression, ne me demande pas ça de faire ce travail, parce qu'en ce moment je suis handicapé pour refaire ça. Ça veut dire, je suis freiné pour faire ça, je n'ai pas 100% de mes moyens. Donc le handicap, par définition, on comprend qu'il n'est pas forcément visible.
Je pense aussi que c'est un petit peu la personne qui a justement un handicap caché, le cache tellement bien que à l'extérieur tout va bien. Et on ne peut pas, enfin c'est des personnes qui sont extrêmement fortes psychologiquement et qui essaient de ne pas faire voir leur handicap aussi. Et là on ne peut pas soupçonner la douleur ou le handicap, parce que c'est ce genre de personne a cette fierté de paraître normale.
Alors le paradoxe, c'est que le handicap physique, Marie-Claude, je pars sous votre contrôle, vous allez m'expliquer ça. Le handicap mental, il est forcément visible. Là, il ne peut pas se dissimuler. Le handicap physique, lui, il peut se dissimuler.
Oui, c'est quelque chose auquel je n'ai pas forcément pensé parler. Enfin,
on est trahi par le handicap mental.
Voilà,
très vite.
Ça c'est différent. Moi je parle de toutes ces personnes qui ont des graves pathologies. J'ai rencontré quelqu'un qui avait une sarcoïdose au stade 4, qui était comme vous et moi à son bureau. Mais il souffre le martyr dans tout son corps. Donc il se dépasse en permanence, parce que sinon il ne pourrait rien faire.
Dépassement. Oui.
Et donc en fait ces personnes-là
On ne donne même pas
des médicaments. Il fait ce qu'il faut, mais il souffre en permanence. Donc c'est pas, c'est terrible d'imaginer ça. Moi je pensais pas que ça pouvait exister à ce stade-là. Mais là je l'ai rencontré. Et c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que à partir du moment où on a une attitude extérieure, enfin une apparence, je me trompe d'expression, qui est normale, on est presque, on essaie de se dépasser en fait. Ces personnes-là se dépassent sans arrêt parce qu'il faut qu'elles assument ce qu'elles font en fonction de leurs responsabilités, et donc elles se dépassent par rapport aux autres en permanence. Et c'est pour ça que je dis que je pense qu'il est grand temps d'attirer l'attention sur le fait qu'il existe quand même deux catégories d'handicapés. C'est peut-être pas forcément ce qu'il faudrait dire, mais je pense qu'il y a les handicapés visibles et puis les handicapés invisibles. Alors là, j'ai plein d'exemples qu'on pourra dire aussi à ce sujet-là, parce que pour que les gens comprennent un peu, mais je suis effarée de voir que le mot handicapé invisible n'est pas compris.
Comment aider ces gens-là, puisque eux-mêmes ont la force de vouloir cacher leur handicap? Comment les reconnaître, parce qu'il faut les aider?
Ils ont besoin d'aide, alors par différents moyens, que finalement, les petits moyens auxquels je pense, parce qu'il y en a sûrement beaucoup plus, mais là, il faudrait que ce soit l'administration qui s'en mêle, parce que c'est très difficile. Quand, par exemple, je prends une réunion, par exemple, une grande réunion, on demande toujours que les handicapés se présentent, disent ce qui pour faciliter la manière de se déplacer, de se positionner, on dit toujours. Mais on ne pense pas à demander si d'autres personnes ont des inconvénients, des choses. Comment on peut les aider? Réserver dans chaque réunion extérieure, je pense à ça, mais comment on peut faire pour autre chose? Par exemple, un endroit à l'ombre s'il y a plein de soleil, où les gens ne peuvent pas supporter, ne peuvent pas rester sous un soleil de plomb, parce que là, eux, leur pathologie fait que ce n'est pas possible. Par exemple, des gens qui ne peuvent pas, par leur dos, parce qu'ils ont un dos trop fragile, s'asseoir sur les chaises, là, vous savez, avec des trous derrière, là où ça ne maintient rien du tout, et où ils sont mal à outrance, et ils sont tellement mal, ils finissent par partir, ils ne peuvent pas rester. Donc c'est des petites choses qu'on pourrait améliorer, mais là, il faut faire bouger peut-être l'administration.
Et est-ce que l'administration, justement, Marie-Claude, oui, les a reconnus maintenant, à conscience de cette situation, où ils sont toujours considérés, on va dire, on regarde comme des bluffeurs, quoi, tant qu'on n'a pas, tant qu'on ne se roule pas par terre, on se dit, on n'arrive pas à se mettre dans la peau de la personne.
À un certain degré, finalement, de pathologie difficile, ils ont des cartes, on a des cartes de priorité. Quand c'est pas possible de rester dans une queue, quand c'est pas possible de rester debout trop longtemps, il y a des cartes de priorité qui sont faites. Ça, c'est vrai, mais elles sont difficilement reconnues, parce que quand vous êtes vous-même en même état que les gens qui font la queue, et que comment vous osez passer devant, c'est très très difficile, parce qu'il n'y a pas
cette... C'est une carte bidon, voilà. Les gens vont dans la...
Oui, moi, dernièrement, on m'a demandé, en fait, mais à quel âge il faut avoir pour avoir cette carte-là? Je suis restée quoi, parce que je ne savais plus quoi dire. C'est vrai que c'est un domaine qui est pourtant à notre porte, puisque tout le monde, d'abord, connaît ou vit ce genre de situation. Et je pense que c'est énorme, il faudrait quand même apporter un autre regard sur toutes ces personnes qui ont des difficultés énormes et qui ne sont pas écoutées.
C'est un gros combat, parce que quand on voit la difficulté qu'on a eue pour que les différents établissements puissent mettre des rampes d'accès pour les personnes handicapées visibles en fauteuil roulant, pour avoir des systèmes d'ascenseur pour mettre un fauteuil roulant, etc. Oui. Ça fait très peu de temps que les différents organismes s'équipent pour recevoir ces gens-là. Donc,
je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. On n'en parle pas, on n'avance pas. Par exemple, dans un salon, il n'y a pas de chaise, même pas pour des personnes qui voudraient juste parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Donc, on va dire, ils n'ont qu'à pas venir dans un salon et ils n'ont qu'à rester, s'ils ne sont pas capables de rester 3 heures. Et donc, on arrive à l'exclusion qui n'est pas de la fête des organisateurs, mais l'exclusion de par la...
Oui. Justement, quel est le regard des autres face au handicap invisible? Est-ce que l'intégration dans des groupes sociaux, finalement, ça passe crème un peu, tel un agent secret qui est infiltré, voilà, donc les gens ne le savent pas, on est intégré. Est-ce que dès que les gens savent que la personne est handicapée, même si ce n'est pas visible, elle se retrouve progressivement exclus du groupe social parce que les gens ont toujours peur de la maladie, de la mort, de tout ce qui n'est pas pareil.
Ils sont surtout très très mal à l'aise. Dès que, s'ils le savent, s'ils savent qu'il y a un handicap, ou, les gens ont un regard, ils sont tellement mal à l'aise qu'ils ne savent pas comment tellement se positionner. Alors si dans un endroit, dans un groupe important, on sait qu'il y a une personne qui est handicapée ou qui a des gros soucis, là je pense que les gens sont à l'écoute. Mais dans une façon générale, le public n'est pas du tout enclin à ça. Si on voit quelqu'un pas très bien, on essaie de l'aider, mais ponctuellement, comme on fait avec quelqu'un qui
physiquement... on lui laisse
physiquement,
la meilleure place. Il y a une réunion, tout le monde est debout, on dit « assis-toi ».
Mais on est obligé de le dire, on est obligé de se signaler, et c'est très difficile de toujours dire « oui, ben moi
mais
je
là,
suis
là,
pas bien ».
Mais là, c'est pas la faute du groupe aussi.
Non, pas du tout, c'est pour ça que je dis, y a pas, la frontière est très... est très difficile à cerner pour améliorer les choses. Ou alors, il faudrait que...
Donc vous avez les inconvénients de l'handicapé.
Oui.
Et pardonnez-moi de dire ça, parce qu'il n'y a pas d'avantage à être handicapé.
Oui.
Mais sans les avantages,
tout à fait.
Mais vous n'avez pas l'exclusion sociale qu'a le handicap.
Pas systématique. Mais on peut en arriver là, parce que justement, comme on ne réagit pas forcément, c'est pas forcément les mêmes réactions, parce qu'il y a un peu plus de lenteur, un peu plus de difficulté à faire comme les autres. Parfois, forcément, c'est peut-être c'est moins rapide, c'est moins. On arrive, on dit, comment ça se fait que.
Y a-t-il pas un certain scepticisme?
Oui, aussi, scepticisme pour penser qu'on puisse faire les mêmes choses que ceux qui ne sont atteints de rien.
Est-ce qu'on a plus peur de l'handicap invisible, parce qu'on ne comprend pas comment il arrive là, c'est mystérieux, par rapport au handicap visible? Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui arrive, qui est handicapé parce qu'il est tombé de son toit en voulant nettoyer son toit, en tombant de sa chaise, etc. Il est intégré dans le groupe parce qu'on dit, le pauvre, ça aurait pu être moi. Oui. Finalement, on essaye de se reproduire.
Tout à fait.
Alors
d'accord.
Que là, quand c'est un truc qui vient de l'intérieur du corps, on se dit, est-ce que c'est contagieux? Est-ce que c'est pas contagieux? Il y a des peurs presque extraterrestres.
Exact. Tout à fait exact. C'est comme ça que je le vois aussi et je l'ai ressenti.
Et je pense à ce que dit Marie-Claude et je l'adapte au handicap mental qui parfois ne se voit absolument pas. Je parle par exemple des gens bipolaires. Vous pouvez très bien voir la personne, tout va bien, tout marche bien, le ciel est bleu, voilà. Et puis passe un oiseau, un petit pipi d'oiseau, ça y est, tout le monde est changé. C'est-à-dire que tout va mal, que le monde vous en veut, etc. Moi j'ai eu un proche qui était atteint de cette maladie, et ça c'est très difficile à supporter pour les alentours. Et on ne peut pas le voir. C'est-à-dire que lorsque je parlais aux gens de ce handicap, « Oh ben non, il est très bien, tout va bien. » Mais oui, tout va bien.
À la fabule.
À l'apparence.
Oui.
Oui.
À la fabule.
Et en fait, celle qui passait pour la malade mentale, c'était moi. C'est très drôle comme chose.
Vrai, mais non,
avec le recul...
Le terme bipolaire, il est aussi très très à la mode. Parce qu'en réalité, on qualifie parfois des gens qui ne le sont pas de bipolaire.
Oui, mais c'est ceux qui sont reconnus, oui.
Il y a toutes ces maladies qui sont évidemment proches, qui amènent les gens à avoir des difficultés à vivre. Oui. Effectivement, ça.
Mais que faire alors? Parce que je sais que tu as essayé des tentatives d'approche de certains députés pour faire avancer les choses, et à chaque fois, c'était porte fermée.
Je n'arrive pas, et c'est vrai qu'il n'y a pas de possibilité de discussion. C'est tout simple. Je n'arrive pas à comprendre que ça puisse pas intéresser des personnes qui normalement ont nos vies, nos en main. Je ne comprends pas. C'est la santé. Quand on imagine le nombre de personnes, parce que moi je peux pas le chiffrer, je le sais pas, on voit bien le nombre d'handicapés. Il y en a deux fois plus qui sont handicapés invisibles. Mais quand je vous dis que même ce mot n'est pas reconnu,
c'est pas chiffrable.
C'est pas chiffrable. Mais il y a quand même énormément de personnes qui sont mal dans leur situation quotidienne. Et donc, on pourrait peut-être faire des petites améliorations. Moi, je pense à des tas de choses, parce que, bon, pour l'avoir vécu, mais je pense qu'il y a des petites choses qui peuvent être faites et qui pourraient être faites quand même simplement. Mais il faudrait juste être un petit peu écouté, c'est tout.
Et ça rapporte pas de voix, peut-être.
Ah, je crois pas. Non, pas du tout. Au contraire. Et on se demande pourquoi ces gens-là veulent arriver avec, comment dire, les dirigeants ou les, je sais pas, ou les responsables ou les conseillers ou je sais pas quoi. Et on se pose plein de questions. Et c'est dommage.
Merci Marie-Claude Barret. Vous nous avez parlé de ce sujet très sérieux qui suscite chez moi beaucoup de questions et de réflexions sur la condition des handicapés invisibles. Le handicap invisible. Il ne faut pas croire parce qu'il n'est pas visible qu'il n'y a pas de handicap. Ben voilà. Et François, je parle sous contrôle, croyez-moi, c'est pas... le terme de handicap ne signifie pas le gars que vous voyez au coin de la rue avec une jambe en moins ou un bras en moins. Le handicap, prenez-le au sens du prof de français qui est Françoise Arafray, c'est-à-dire vous n'êtes pas à 100% pour effectuer une tâche. Vous êtes handicapé par une tâche, voilà. Ça peut être une douleur voilà, qui ne se voit pas et apparaître comme valide. Merci Marie-Claude Barret, Françoise Arafray et Jackie Cassou étaient aujourd'hui dans le studio.